La route était son domaine.
Il est toujours assis à côté du conducteur. C'est pas lui qui prend le volant pour traverser les États-Unis à toute vitesse. C'est beaucoup l'image de celui qui regarde, de celui qui témoigne, de celui qui rapporte. Il y a toujours ce regard de, oui, presque de reporter, enfin, de le regard, cette distance prise par rapport au réel. Prénom ?
Jack. En réalité, Jean-Louis.
Non.
Kerouac. Sa famille est d'origine canadienne-française, mieux d'origine bretonne. Sa dernière marotte autour de 1965 sera de rechercher jusqu'à Brest, un ancêtre noble évidemment du XVIIIe siècle.
Sa date de naissance ?
Mars 1922, à Lowell, dans le Massachusetts. Il aurait 100 ans.
Sa famille ?
Des artisans, des ouvriers. Il n'aura pu convaincre son père qu'il est un grand raconteur d'histoire. Il sera jusqu'au bout sous la tutelle de sa mère, qui appréciait comme lui l'alcool, mais beaucoup moins ses amis, la Beat Generation.
Des études ?
Sport-études, faudrait-il dire, à Columbia, interrompu.
Un métier ?
Des métiers innombrables, veilleur de nuit, garde forestier, matelot sur les cargos ou serre-frein dans une compagnie de chemin de fer. Des gagne-pains, souvent liés aux voyages, donc.
Les voyages, justement ?
Ah bah alors, sans cesse l'aller-retour entre Est et Ouest des États-Unis ou encore du Nord au Sud des Grands Lacs à Mexico. Dernier voyage en stop, 1960.
Ses œuvres ?
Sur la route, évidemment, 1957. Chef-d'œuvre de l'écriture dite spontanée. Mais aussi The Town and the City, Les Vagabonds Célestes, Tristessa, Big Sur.
Un mariage ?
Oh non, plusieurs et des femmes innombrables. Il redoute qu'elles le rendent père. Le dernier mariage, Stella Sampas, il attend d'elle qu'elle accompagne sa mère, très malade.
Et ses maladies à lui ?
Oh ben ça va de la phlébite au délirium tremens. Il consomme énormément d'alcool et de substances illicites.
Et sa mort ?
Octobre 1969, à 47 ans. Depuis, Sur la route s'est vendu en poche à 30 millions d'exemplaires.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Oui, alors je pourrais dire que c'est son centenaire. Mais pour un homme qui fut longtemps si beau et qui aimait tant le mouvement, c'est peut-être pas ce qu'il faut mettre en avant. Encore que le centenaire, ça a des avantages. On publie ses poèmes dispersés, parce qu'il fut aussi un poète. Et pour la première fois, le roman avec lequel il débuta si souterrainement que jamais il ne le sortit de sa cachette. Ça s'appelle « L'océan est mon frère ». « Je suis fait pour partir », y disait-il. Il était fait aussi pour écrire. Mais il questionnait « Suis-je donc né pour écrire comme tout le monde ?» Ben évidemment, non. Alors il écrivait dans un style qu'on retrouve chez d'autres auteurs qui étaient ses amis, Ginsberg, Burroughs. On a appelé le mouvement auquel il participait la Beat Generation. Écrire à partir de la vie même. La fiction n'a pas besoin d'être fausse. La vie peut être une fiction. Aujourd'hui, de la Beat Generation, on se souvient des débordements dont elle ne se protégeait pas, mais le danger qu'elle côtoyait ne doit pas faire oublier le plaisir qu'elle peut toujours procurer. Kerouac en était, tout en n'en étant pas, parce qu'il cultivait sa singularité, qui venait peut-être de son appartenance à une culture très minoritaire en Amérique, celle des Canadiens français, ces catholiques qui parlaient une langue étrange, et qui, dans le cas de sa famille, avaient passé la frontière du Canada pour s'établir du côté États-Unis, dans une petite ville d'industrie textile, Lowell, dont il n'oubliera rien, où il est enterré. On l'appelait d'ailleurs le môme mémoire.
Tu sais. Pendant que les hommes boivent pour oublier, toi, Jack, tu n'oublies rien. À l'école, on t'avait surnommé Memory Babe, l'enfant qui n'oublie rien. Une enfance qui reviendra dans tous tes livres, Petite phrase noyée dans ta prose américaine, en canadien-français dans le texte, comme diront les traducteurs. Une enfance passée dans une cuisine qui sentait la vanille. Plus tard, tu t'en souviendras pour écrire. C'est exactement comme le lait froid sur le gruau quand il est chaud. La rencontre du chaud et du froid fait un trou profond dans les souvenirs d'enfance. Puis, c'est le Lowell de l'adolescence, peuplé de Canucks, le sobriquet des Canado-Franco-Américains. Joe Fortier, Billy Artaud, Gene Plouffe, Albert Lauzon, Scotty Beaulieu, des personnages que tu as rencontrés dans Phoebe Street, Lupin Road ou Centralville, au cinéma Keith, dans les grottes de Pawtucket ou sur le pont de Moody Street, où ta mère et toi vous avez vu mourir un homme. Le Lowell des filatures qui ferment les unes après les autres dans la débâcle des années 30, laissant la ville aux mains du maléfique Dr. Sachs.
Qui sera le thème d'un livre de Kerouac, Canado, Franco, Américain, la langue qu'il pratique, qui n'est pas le joual du Québec. On pourrait l'appeler le Canadien français de Nouvelle-Angleterre. Une langue isolée, une langue réprimée qui fait rire les habitants de Montréal quand Kerouac y donnera des interviews.
Vous êtes allé à l'école française?
Oui, Saint-Louis de France. Je parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans.
Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans?
Oui.
Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais?
On parlait français dans la cabane, dans la maison.
Mm-hmm.
Puis, c'est un quartier, toutes des Français. La rue Beaulieu, puis la rue Boisvert, puis... puis le club, toutes des vieux Français que je vais au 4, puis je vais au pour. Puis... Le Noël, nouvelle année, ils faisaient des toutiers, puis criaient à pleine tête. Et une fois par année, ils descendaient des Canadiens de Québec dans des cilets avec des chiens, mm-hmm. dans la neige, pour célébrer. Ça veut dire ça? Hallowell.
Hallowell.
Oui.
Vous entendez la moquerie. Kerouac n'en a cure. Son écriture cherchera toujours à restituer la langue de la rue. Le français de Lowell, donc, qui mélangeait les mots comme les piliers de bar mélangent les flacons. Il va faire la même chose en écrivant l'anglais sans vergogne, distendant les mots, les accolant en grappes, les recréant. Sa famille, catholique très pratiquante, elle-même ressemblait à un collage. On y avait connu des jours heureux et d'autres terribles. L'aîné, Gérard, était mort à 9 ans. Et la mère n'hésitait pas à dire à Jack qu'elle aurait préféré que ce fût lui. On y exerçait des métiers modestes, mais on s'enorgueillissait sans cesse d'un aïeul noble, et on était ambitieux pour l'avenir. Alors pour l'avenir, on avait débusqué le meilleur moyen pour permettre à Jack d'entamer des études universitaires, la piste, sport, études. C'est le football américain qui lui a ouvert les portes de Columbia.
Il fallait choisir une université. Ma mère tenait à Columbia, elle désirait s'installer à New York pour voir la grande ville. Mon père, lui, voulait que j'aille au Boston College. Mais comme ma mère, je désirais aller à New York pour voir la grande ville. Qu'est-ce que je pouvais donc apprendre de nouveau le samedi soir à Newton Heights ou South Bend, Indiana? Et puis j'avais vu tellement de films sur New York que... Enfin, inutile de s'étendre là-dessus. Le bord de mer, Central Park, Fifth Avenue, Don Amici sur le trottoir, Hedy Lamarr à mon bras au Ritz. J'ai dû reconnaître que, comme d'habitude, ma mère avait raison. Elle m'a dit de laisser Maggie casser des chez elle et de partir faire mes études à New York. Nous voici donc en ligne. Et je vois sur le bord du terrain l'entraîneur Lou Lebel, qui s'est enfin déplacé pour me voir. J'imagine qu'on a dû lui dire que j'étais un drôle de petit Français du Massachusetts sans grand talent pour le football, contrairement à ses chouchous italiens de Manhattan. Maudit! Je vais leur montrer à ces caves-là comment ça court un gars français de Lowell. C'est reparti. Quand je sens tout à coup quatre grosses mains se visser autour de mes chevilles, deux sur chaque. Gonflé d'orgueil, je pivote adroitement de tout mon poids pour me libérer de leur étau et m'échapper. Je fais une rotation complète. J'entends un craquement sourd. Ma jambe vient de se casser.
L'accident, ses conséquences, une soudaine lassitude aussi devant des études qu'il juge trop académiques alors que lui aime tant lire en liberté. Kerouac va quitter Columbia en 1942. Et commence une vie heurtée, avec un bref engagement dans la marine. Pas mal d'excitant déjà. Oui, parce que chaque moment de débauche prend la valeur d'une insurrection privée contre la société très réglée de l'époque de la guerre. En 1944, c'est la première rencontre avec deux jeunes écrivains qui vont longtemps constituer son cercle, Allen Ginsberg et Richard Burroughs.
Monsieur Lebrun, Kerouac est partie prenante d'un groupe avec lequel on a peut-être tendance à le confondre, la Beat Generation.
Oui, dans l'histoire des arts, des idées, la désignation de tel ou tel groupe par une formule appliquée d'autorité, ici c'est par un journaliste, Holmes, provoque souvent beaucoup de malentendus. En France, on pense aux existentialistes, aux nouveaux romans, aux écrivains voyageurs, etc., etc. Et les membres des groupes, ainsi montrés du doigt, se sentent réduits dans leur singularité par la tyrannie de la visibilité qui leur est imposée. En même temps, l'étrangeté provocatrice de la manière d'être et d'écrire de Kerouac, de Burroughs, de Ginsberg et consorts méritait sans doute d'être soulignée d'un mot, beat.
La Beat Generation, c'était une vision que nous avions eue, John Cleland Holmes et moi, et Allen Ginsberg d'une manière encore plus dingue à la fin des années 40, d'une génération de types à la cool, illuminés et fous, qui tout à coup se lèverait pour parcourir l'Amérique. Sérieuse, curieuse, clocharde et faisant du stop dans toutes les directions, en loque, béate, d'une laideur belle dans sa grâce et sa nouveauté. Nous avions même entendu des vieux types à la cool de 1910 parler dans les rues et utiliser le mot comme ça, avec une mélancolie ironique. Cela n'a jamais voulu dire délinquant juvénile. Cela voulait dire personne douée d'une spiritualité particulière, qui n'avait pas formé de groupe, mais était plutôt des Bartleby solitaires, contemplant la fenêtre murée de notre civilisation. Les héros souterrains qui s'étaient finalement détournés de la machine à liberté de l'Occident et qui prenaient des drogues, adoraient le bop, avaient des éclairs de lucidité, faisaient l'expérience du dérèglement de tous les sens, parlaient de façon bizarre, étaient pauvres et fiers de l'être, qui prophétisaient un nouveau style pour la culture américaine. Un nouveau style, pensions-nous, complètement libéré des influences de l'Europe, à la différence de la génération perdue, une nouvelle incantation.
La Beat Generation ou l'inservitude volontaire. C'est le titre d'un livre de notre premier interlocuteur, Olivier Bénaud-Lacassagne.
D'abord, historiquement, si on reprend la chronologie, c'est un terme que Kerouac emprunte à Herbert Hunky.
C'est qui ce personnage?
Alors, Herbert Hunky, c'est un marginal, toxicomane, misérable, new-yorkais, que Kerouac rencontre. C'est un ami de Burroughs, et Kerouac le rencontre, et c'est chez lui qu'il entend cette expression « I'm beat », qui veut dire « je suis cassé, je suis foutu, je suis brisé », etc. Terme employé à l'argot afro-américain. Et puis, c'est un terme qui va être repris ensuite par John Cleland Holmes dans son article « This is the Beat Generation » 1952, qui va donc populariser ce terme. Et puis c'est enfin un terme de la langue de Kerouac. Mais c'est un terme en évolution. Le mot « beat », Kerouac va le resémantiser. Et il va en faire un mot de son vocabulaire. Alors ça veut dire quoi tout d'abord ?« Beat », ça veut dire ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire cassé, foutu, brisé. Mais ça veut dire aussi, ça nous renvoie aussi au battement du cœur. Le battement du cœur, beat. Ça nous renvoie au jazz. Le jazz, c'est-à-dire le tempo ici, le battement jazzique. Et puis, il y a une lecture spiritualiste de ce mot par Kerouac. C'est le latin d'église, béatifique, béa, c'est-à-dire le bienheureux. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que Kerouac va passer de l'argot afro-américain à la béatitude. Et enfin, Beat, c'est en deux mots, be at. C'est-à-dire être présent à l'instant. Être ici et maintenant. C'est l'ensemble de ces sens que Kerouac transporte avec lui. Et en fonction de ses interlocuteurs et de ses lecteurs, chacun retiendra un peu de ceci ou de cela.
Bon, d'accord, Beats est riche de beaucoup de possibilités. Mais alors le mot « génération », est-ce que c'est pas un peu une étiquette ?
Je préfère très nettement le terme de « constellation beat » à celui de « beat generation ». « Beat generation » va nous renvoyer très vite, à la fin des années 50, au mot de « beatnik », qui est un mot péjoratif, qui est formé sur le mot Spoutnik. Et Spoutnik est évidemment péjoratif dans la bouche d'un Américain. Spoutnik, Beatnik, et le journal Time parlera des Sicknik, hein, pour désigner ces malades de l'humour qui portent atteinte à l'intégrité nationale américaine.
Alors pourquoi préférez-vous Constellation ? Parce que tout ce groupe, qui est en fait un réseau, s'organise par cercle.
Oui, en réalité, il y a ici, une configuration d'écrivains, de poètes, d'artistes, qui, pour les uns, appartiennent à la côte Est, et pour les autres, appartiennent à la côte Ouest. Et ils vont se rencontrer, en particulier, à partir de 1955, puisqu'en octobre 1955 est organisée à San Francisco une lecture publique et à la Six Gallery. Et c'est une lecture qui permettra à Allen Ginsberg de lire cet immense poème, ce texte formidable, Howl, Hurlement, hein, qui dénonce le monstre américain. Là, c'est une lecture publique. Hein, et ça sera le temps aussi des collaborations avec des musiciens, pianistes de jazz, saxophonistes, etc., etc. C'est propre aux pratiques culturelles, littéraires, disons, et extra-littéraires américaines du moment.
Mais les événements, ça peut aussi bien être une session de jazz. On parlait du battement de l'écriture de la Beat Generation. Kerouac lui-même accompagné au saxo.
Book of Blues. I see the backs of old men rolling slowly into black stores. Line-faced, mustached, black men with army-weathered brown hats stomp on by with bags of burlap and rue, talking to secret companions with long hair in the sidewalk on 3rd Street, San Francisco. With the rain of exhaust clicking in the mist you see in black store doors, heading trucks, plopping, vastly city. Third Street, market to lease, has a washed down tile entrance, once white, now caked with gum, of 100,000 feet of passers who didn't go straight on, bending to flap the time pap page on back, with smoke emanating from their noses, but slowly like old lantern jawed junkmen, hurrying with a lump, wondrous potato bag to the avenues of sunshine, came bending the spit and shuffled a while there.
Kerouac est resté dans le silence. Il a publié un livre en 50, The Tone and the City, qui a connu un succès d'estime, puis plus rien. Pendant que Holmes, le journaliste, cher vieux papa, lui écrivait-il, décrivait la Beat Generation, pendant que Ginsberg connaissait un premier succès de scandale avec Hall. Mais Kerouac devait bien cacher son jeu, il préparait un grand livre depuis longtemps, depuis sa rencontre avec Neil Cassidy en 1946. C'était un garçon prodigue de son corps, de son temps, de son verbe, et qui allait devenir le personnage central d'un livre, l'histoire de deux mecs qui couraient le pays cherchant à attirer les jolies filles. Peggy Pacini, c'est une grande traductrice de la Beat Generation, et puis elle a écrit sur Kerouac franco-américain.
Neil Cassidy a été à l'origine de cette écriture spontanée aussi.
Mais c'est un vivier d'histoire, ce garçon.
Neil ?
Ouais.
Oui. Neil est un vivier d'histoire, d'histoire rocambolesque, d'histoire qui tourne mal, un voyou, mais d'histoire qui sont les diverses histoires de ces marges de l'Amérique, celles dans lesquelles se retrouve Kerouac, enfin celles que comprend Kerouac, celles de ses classes populaires, de celles qu'il a connues chez Hallowell aussi dans cette ville dans laquelle il est né. Et a grandi. Donc en fait, il y a un écho quand même chez Neil, une résonance dans les histoires de Neil de son propre vécu.
Et il y a un échange amoureux entre les deux ?
Je pense pas. Voilà. Enfin, c'est pas. C'est plutôt. Non, je pense que c'est une fascination pour ce personnage qu'il ne peut pas être, en fait, sur lequel il se projette, mais qu'il aimerait bien être parce que il brise tous les codes, parce que il n'a aucune frontière et aucune limite, et Kerouac, eh bien, il est pétri de culpabilité, enclos dans son provincialisme, et donc Neil, c'est la projection de ce qu'il aimerait être aussi et qu'il ne peut atteindre.
Sur la route, avec lui, en voiture, en stop, en camion.
La plus belle course de ma vie était sur le point de commencer. Un camion avec une plateforme arrière avec environ 6 ou 7 gars vautrés dessus. Et les conducteurs, deux jeunes fermiers blonds du Minnesota qui ramassaient toute âme solitaire qu'ils trouvaient sur la route. Le plus jovial, le plus serein couple de pecnos bien balancés qu'on puisse jamais espérer voir. Tous deux vêtus d'une chemise en coton et d'une salopette et rien d'autre. Solides du poignet et sérieux, accueillant avec de larges sourires, « Comment ça va mon gars ?» tout ce qui se présentait sur leur chemin. J'accourus. « Il y a de la place ?» Ils dirent « Bien sûr, monte, il y a de la place pour tout le monde !» Je n'étais pas sur la plateforme, que déjà le camion rugissant démarrait. Je titubais, un passager m'empoigna et je me retrouvais sur les fesses. Quelqu'un me passa une bouteille de torboyau, un fond de bouteille.
Just fine.
Je lampais un grand coup, fouetté de plein vent par la brise âpre, lyrique, par la bruine du Nebraska. Ouah ! Et en avant, gueula un gamin en casquette de baseball. Et ils poussèrent jusqu'à 70 miles à l'heure, dépassant tout ce qu'ils rencontraient sur la route. Quel bordel ! Ces types ne s'arrêtent jamais. De temps en temps, on doit gueuler pour pisser. Autrement, il faut pisser en l'air. Et alors, cramponne-toi, mon pote, cramponne-toi.
Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, le triomphe de Sur la route de Kerouac ne balaye-t-il pas toute son œuvre qui précède ?
Ben non, on peut soutenir le contraire. C'est à cause de ce succès immédiat et durable que Jacques Kerouac va pouvoir publier ce qui avait dû rester inédit. Jusque-là, il tenait très bien ses archives, ce garçon qui vivait le pouce en l'air. Il avait des chemises classées, des papiers bien rangés. Et pendant plusieurs années, donc, il va très régulièrement être édité.
avec des textes dont on pense qu'ils sont postérieurs à Sur la route, alors que c'est l'inverse. Tout ça dans un climat de célébrité qui l'entoure et qui lui devient de plus en plus pesant. Il a la nausée des critiques bidons, des enthousiasmes fallacieux fondés sur de fausses raisons. Et il ne veut pas finir en homme d'affaires, avec des piles de courriers, des invitations à des conférences, à des déjeuners, et puis une secrétaire. Je veux continuer à être clochard, revenir au Tigeant, c'était son surnom d'enfance, qui se cachait dans sa chambre pour dessiner. Il déteste de plus en plus la société de consommation américaine. Son dernier voyage en stop, il le fera en 1960.
Quand Kerouac part sur la route, c'est la fin des années 50 et tout est ouvert en fait. On peut dormir partout, on peut faire du stop. Et dès les années 60, donc dans Big Sur, il commence déjà à raconter ça, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire du stop. C'est la police qui vient les déloger. Effectivement, on ne peut plus dormir sans être attaqué à la Belle Étoile. Donc en fait, les conditions même de la route ou de prendre la route ou de partir à l'aventure n'existent plus, en tout cas telles qu'elles existaient à la fin des années 50. Il y a toute cette liberté et toute cette hospitalité de l'espace qui n'existe plus et qui devient de plus en plus problématique pour pouvoir continuer l'aventure sur la route.
Il y a des années que je n'ai pas fait d'autostop et je m'aperçois bientôt que la situation a bien changé en Amérique. Plus personne ne consent à vous prendre. Les longues voitures rutilantes passent lentement, narquoises, arborant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec aussi des teintes pastel, rosées, bleues, blanches. Le mari est au volant, affublé d'un énorme et ridicule chapeau de vacancier et d'une visière de joueur de baseball qui lui donne un air parfaitement stupide. À côté de lui, Bobonne, maîtresse de l'Amérique, ricane derrière ses lunettes noires. Même si lui acceptait de me prendre, moi ou un autre, elle ne le laisserait pas faire. Mais sur les deux sièges arrière, il y a les enfants. Les enfants, des millions d'enfants de tous âges, ils se battent, ils hurlent la crème glacée à la main, ils renversent la vanille sur les housses de tartan. Il n'y a plus de place de toute manière pour l'autostoppeur, et pourtant, on aurait peut-être pu autoriser le pauvre type à prendre place derrière les sièges. Mais non, hélas, il y a là 10 000 valises de costumes et de robes bien nettes, impeccablement repassées et de toutes les tailles. Ainsi, ils auront l'air de millionnaires quand ils s'arrêteront dans un resto-route pour manger des œufs sur le plat avec du bacon. À chaque fois que le vieux a froissé un peu son pantalon, elle l'oblige à en prendre un autre à l'arrière et lui, il file doux, bien qu'en secret, il regrette certainement de n'avoir pu se payer cette année, comme au bon vieux temps, une petite partie de pêche, tout seul ou avec ses copains. Mais l'autorité de Bobonne l'a emporté sur toutes ses aspirations. Maintenant, en 1960, ce n'est plus le moment de désirer le grand fleuve aux deux cœurs, les poissons enfilés bout à bout sous la tente, et le soir, le feu de camp et la bouteille de bourbon. C'est l'époque des motels, des restoroutes. On apporte des serviettes à tout le monde dans la voiture, on fait laver la carrosserie avant de repartir chez soi.
Alors comment rester dans ces conditions ? Un clochard céleste, c'est le titre d'un grand livre de Kerouac, où il décrit l'initiation qu'il cherche alors auprès du Californien Gregory Snyder à la méditation orientale et au bouddhisme. L'Abbé de Generalsen a apporté beaucoup au bouddhisme, certains disent, davantage que le Dalai Lama lui-même. Alors, quant à ce qu'il a produit chez Kerouac, lui, c'est un rétif, hein, il tient pas en place. Et puis il reste catholique. Je ne suis pas un bitnik, lance-t-il, je suis un catholique. Retour au bercail. Il parlait de Bobonne. Mais lui, il va retomber sous la tutelle de sa mère, qu'il appelle Mémère. Elle vit de plus en plus avec lui, condamnant le bouddhisme, bien sûr, comme l'influence de Ginsberg, fermant un jour la porte à Jim Morrison parce qu'il a les cheveux trop longs. Mes mères voudraient que les drogues ne pénètrent pas dans la maison. En revanche, elle boit sans remords. Ce sont deux poivreaux qui commencent à habiter ensemble.
En fait, le Jack qu'on connaissait quand on habitait à New York avait beaucoup changé. Et quand on revenait de Saint-Louis à New York, donc on le voyait souvent. Mais c'était très triste de voir ce qu'il était devenu, de voir son visage déformé, ravagé par l'alcool. Et il me l'a dit, à moi, je suis catholique, je ne peux pas me suicider, je ne ferai pas ça à ma famille, mais je boirai jusqu'à ce que mort s'en suive. À un moment donné, il me parlait et puis il me disait quelque chose qui l'avait beaucoup touché, je ne me souviens plus quoi, je regrette. Et pendant qu'il racontait, sa tête tombait sur son épaule comme ça. Et puis bon, il se remettait un peu d'aplomb. Il y avait des larmes dans ses yeux. Ça me donnait envie de pleurer aussi. Mais je suis partie après.
Le Kerouac de 1940, c'est un corps d'athlète, un regard perçant, des yeux très très bleus, et qui regarde des yeux bleus qui peut-être se projettent loin, très loin, vers quelque chose d'inatteignable. Donc cette route dont on parlait, vers laquelle il aimerait tendre, au bout de laquelle il aimerait arriver. Et puis on a le Kerouac des années 60. Celui que on peut voir avec cette veste à carreaux, pied de poule, avec le visage extrêmement marqué, les yeux perdus, remplis de tics, qui a du mal en fait à se concentrer, pétri par l'alcool, consumé par l'alcool, dans son monde à lui, dans sa bulle, et qui finalement est un être avachi physiquement, enfin sur lui-même, recroquevillé, et puis extrêmement timide, extrêmement maladroit aussi, et qui va déconstruire lui-même le mythe qu'il a créé, en fait.
Oui, mais de quel droit lui interdire d'avoir pour héros maintenant les ratés, les ivrognes, Neil Cassidy, on va le retrouver mort le long d'une voie de chemin de fer au Mexique après une nuit d'ivresse, un matin froid, ou les grands drogués comme ce personnage qu'il décrit dans Tristessa.
Old Bull dort. Il a enfin réussi. Il est au nirvana. Il ronfle. Il n'est plus là. Je suis désolé d'avoir à le réveiller, mais il faudra bien qu'il s'enferme au verrou. Dehors, il fait gris. La pluie s'est enfin arrêtée de tomber après la grande averse de l'aube. Cet orage a fait 40 000 sans-abri dans le quartier nord-ouest de Mexico. Old Bull est loin des orages et des inondations. Avec ses seringues et ses poudres et ses cotons et ses comptes-gouttes et tout son fourbi à côté de son lit. Quand tu as de la morphine, tu n'as besoin de rien d'autre, mon garçon, me dit-il dans la journée, bien peigné, bien installé dans son grand fauteuil avec ses journaux, l'image même de la bonne santé. Je l'appelle Madame Poppy. Quand tu as de l'opium, tu n'as besoin de rien d'autre. Toute cette bonne M qui te descend dans les veines, ça te donne envie de chanter Alléluia. Il se met à rire. Mettez Grace Kelly sur cette chaise, morphine sur celle-là. Je choisis morphine. Il est au bord des larmes. J'ai lu Rimbaud et Verlaine, je sais de quoi je parle. La drogue, c'est la seule chose que je désire.
Intelligence, service. France Inter.
À la hauteur de ce qu'elle représentait pour lui, la France ne va-t-elle pas développer une relation particulière avec Kerouac, Monsieur Lebrun ?
Oui, les jeunes Français ont été particulièrement nombreux, sac au dos, pouces tendus, à prendre le large. Louis Malle les a filmés jusqu'à Katmandou. Mais ils pouvaient s'arrêter en Lozère ou en Ardèche, c'était un temps qu'ils voulaient expérimenter la vie en communauté. Un magazine haut en couleur, animé par Jean-François Bizot et toute une équipe d'allumés, incarnait alors cet état d'esprit, c'était actuel. Olivier Pénaud-Lacassagne.
En juin 1971, le numéro 9 d'Actuel s'intitule « Prendre la route ». Et deux pages sont consacrées à Jack Kerouac. Alors, c'est très intéressant parce que la route ici est présentée comme un symbole d'ouverture et de liberté, de libération. Mais à peine un an plus tard, en juin 1972, Actuel publie une nouvelle livraison intitulée « Tout au bout de la route ». Et Actuel met en garde ses lecteurs des impasses de la route. La route, je cite, « ne doit pas être un vide ordure pour les marginaux qui ne s'adaptent pas ». Et donc ce que nous dit ici Actuel, c'est que le journal Actuel, c'est que l'occidental en rupture, le jeune homme ou femme, la jeune femme occidentale en rupture, est un parasite. On peut partir, certes, mais il faut savoir, écrit Actuel, il faut savoir revenir. Et on peut également signaler la parution en 1973 du Guide du Routard. Première édition du Guide du Routard, 1973. Et c'est très intéressant parce que, en réalité, le routard n'est pas un jeune marginal. Le routard, c'est celui qui, et on le trouve dans les pages d'Actuel, c'est celui qui se nourrit d'une bibliothèque solide. Alors ça va être bien sûr les écrits de Kerouac, mais ça va être aussi ceux de Ginsberg, ça va être les écrits de Marcuse, d'Alan Watts, et de quelques autres. D'Ivan Illich, bientôt, et de quelques autres. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que, la route peut être le symbole de libération et d'ouverture, mais cette libération doit se nourrir, et les nourritures de cette libération doivent être substantielles.
Bon, Actuel n'existe plus. C'est dans le Figaro qu'il y a eu, pour le centenaire de Kerouac, les plus longs éloges, et en particulier celui de l'écrivain Jean Rouault, qui, jeune homme, habitait Saint-Nazaire, la ville qui donne envie d'appareiller et où le jazz s'est introduit en France. « Marchant dans les Pyrénées », écrit Jean Rouault dans le Figaro, J'accompagnais Kerouac dans l'ascension des sommets de Californie qu'il avait raconté, dans les clochards célestes qui ont fait mon apprentissage du monde. Oui, il m'a appris que les jeux d'écriture peuvent facilement moudre du vide et qu'il faut écouter la vaste rumeur du monde. Ça, c'est la France à l'écoute de Kerouac. Mais le paradoxe, c'est que Kerouac, n'oubliant jamais sa première langue, le canadien, français, de Nouvelle-Angleterre, se réclamait, lui, de l'exemple de nos grands auteurs, au premier rang desquels, bien sûr, l'homme de l'oralité, Louis-Ferdinand Céline. Ici, dans un entretien en 1959.
Moi, je trouve que le plus grand écrivain du monde, c'est Louis-Ferdinand Céline. Que son nom, son vrai nom, c'est Destouches. Donc, il est un docteur. Docteur Destouches. Parce que il a écrit les grands... Comment on appelle ça? Épiques.
Épopées.
Hein?
Épopées.
Les grands épopées?
C'est ça.
Pou. De la vie moderne. Mieux que tous les autres. Voyage au bout de la nuit. Et aussi, il a écrit... mort à crédit. Après ça, je dis que Genet est un grand écrivain. Blaise, Sandrard, hein? Mais Sartre, Camus, Michaud, et Malraux, et Mauriac, et Morois, et Gide.
Et n'oublions pas Proust. Il voue une grande admiration à Proust. Bien sûr, Proust écrit d'un lit de malade, pas d'une plateforme de camion. Son œuvre peut paraître manquer de mouvement, mais il a le coup d'œil, il est capable d'une analyse à la première personne du singulier, de la vie dans sa totalité, mais sectionnée en fragments. Plus les années passent, plus Kerouac voudrait renouveler son inspiration dans ce qu'il considère comme la plus ancienne France. La matière qu'il voudrait retrouver, c'est la matière de Bretagne. Peggy Pacini.
La première rencontre avec la Bretagne pour Kerouac, c'est les récits du grand-père qui racontent l'histoire familiale, enfin en tout cas qui fantasment l'histoire familiale et qui est transmise de génération en génération et qui construit en fait finalement ce fantasme de la terre des origines qui serait la Bretagne.
Alors, donc un chevalier qui... au début du XVIIIe siècle, s'installe
au Québec, Nouvelle-France, voilà, hein. En Nouvelle-France, exactement, vous avez raison, en Nouvelle-France. Hein. Donc c'est un récit légendaire, enfin ça devient une légende que Kerouac va entendre. C'est le récit narratif de la famille, c'est la construction de l'histoire familiale qui, au fur et à mesure des années, va prendre de plus en plus d'importance à mesure que Kerouac, en fait, se détache de la Beat Generation, de ce rêve américain, déconstruit ce rêve américain et reconstruit, en fait, le rêve de la Bretagne, on pourrait dire. On peut aussi dire que l'image de la Bretagne, elle commence à Big Sur aussi, peut-être, dans ce poème qu'il écrit, le poème qui s'appelle « Mer », la mer, qui est ce poème qu'il essaye d'écrire en diverses langues, cette espèce de Babel où il est face à l'océan Atlantique, complètement tourmenté, et où il essaye de faire surgir le poème qui serait en fait quelque part un poème, un espèce de poème anthropologique, ethnologique, où il va faire à la fois ressurgir l'univers, sa propre identité et en fait ses racines bretonnes. Puisque pour lui, il commence le poème en disant « Les poissons de la mer parlent breton ».
Et il les entend puisque, dit-il, « Je m'appelle le Brice de Kerouac ». En 1965, il franchit enfin l'Atlantique pour rejoindre la péninsule rêvée. C'est un voyage très bref, désastreux, mais mémorable, dont il inventera chaque détail dans un livre entier, Satori à Paris. Satori, c'est en japonais illumination, des illuminations dans les brumes de l'alcool. Chez son éditeur Gallimard, les dames des bureaux n'ont pas voulu croire qu'il était lui. À la Bibliothèque nationale, il demandait l'histoire des maisons illustres de Bretagne, un livre qu'on a refusé de lui communiquer. Alors au bout d'une journée, Kerouac a pris le train pour Brest, Il a descendu quelques flacons au wagon-restaurant avec un ivrogne, en qui il a reconnu un frère. Est-ce qu'il va trouver un cousin en la personne de Pierre Lebris, qui est libraire rue de Siam?
Je reçois un jour un coup de téléphone du bistrot à côté, et le patron du bistrot, Monsieur Didier, dit « Non, Monsieur Lebris, j'ai quelqu'un ici qui arrive d'Amérique. » Il dit qu'il s'appelle Lebris. Et comme j'ai su que c'était lui, et Kerouac, j'aime ça, mais quelque chose, il aime bien boire. J'ai demandé à une vendeuse de monter vite une bouteille d'alcool ou de cognac ou n'importe quoi. Donc, on a parlé de bouquins. Il a parlé surtout de son nom. Je lui ai dit, moi, je ne vois pas dans l'arbre généalogique de Lebris qui puisse être un de vos parents, de vos ancêtres. Donc, je ne trouvais pas. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai dit à Kerouac, je vais rechercher. C'est un souci pour lui.
Donc, il est reparti, bredouille, de Brest, non sans avoir raté son train, par la faute d'une sieste dans un jardin. Le souci deviendra monomanie et en 1969, quand il meurt, on dit que c'est avec un billet d'avion en poche pour revenir en Bretagne. Plus tard, les généalogistes retrouveront la trace de l'aïeul, qui n'était pas noble, fils de notaire royal tout de même, mais contraint de partir pour la Nouvelle-France à la suite d'une affaire de viol. Devenu coureur des bois, resté coureur de jupons, il dut épouser une fille qu'il avait engrossée, et là apparaît sa signature. De Le Bihan qu'il était à l'origine, il est devenu Lebris, et il a ajouté de Kervoac, qui deviendra Kerouac. Plus tard encore, le poète Xavier Gral écrira dans sa maison de pierre, remplie d'œuvres de la Beat Generation, un Kerouac song. Kerouac est mort. Il y aura demain sur sa tombe des filles dingues et des tas de défoncés. Il y aura des genêts au vert pays de la Bretagne originelle. Il y aura des genêts dans ses yeux bleus quand la terre aura chanté son dernier été. Remerciements à Peggy Pacini qui a écrit une thèse sur Kerouac franco-américain, traduit les lettres choisies de Ginsberg, à Olivier Pénaud-Lacassagne, son livre Beat Generation, l'inservitude volontaire. Les lectures Grégoire Roqueplot, à la technique Yann Fressy et à la maison de la radio et de la musique Anne-Laure Cochet, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard. C'était une réalisation d'Audrey Ripouille.